Donc c'est un privilège d'être parmi vous et j'espère qu'ensemble nous puissions sonder les profondeurs de la parole de Dieu ce matin. La dernière fois qu'on était ici, ça fait à peu près un an et demi, on a regardé l'histoire de Jean-Marc. C'était ce jeune stagiaire qui a commencé sa carrière missionnaire par l'échec, mais il a terminé comme Paul l'a appelé utile pour le service. Et nous avons vu que malgré ces échecs que Dieu peut nous transformer, nous rendre des servants utiles pour son service. Et nous avons fait la dernière remarque que c'était ce Jean-Marc qui a écrit l'évangile de Marc, malgré son échec au commencement. Et ce matin, je voudrais continuer comme pasteur, prédicateur, visiteur, on sait, c'est difficile de commencer une série. Donc, quelque chose que j'aime regarder, ce sont les personnages de la parole de Dieu. Alors ce matin, je voudrais continuer ce thème et regarder quelques personnages, surtout ceux qui ne sont pas bien connus. Ce matin, nous commençons notre lecture des Écritures à la fin de la lettre de Paul aux Colossiens. En chapitre 4, versets 7 à 18. Et nous regarderons dans ce passage quelques compagnons, quelques disciples de Paul. Et je leur ai donné les noms, le parfait, le fidèle et l'apostat. Le parfait, le fidèle et l'apostat. Donc, regardons Colossiens chapitre 4. Versets 7 à 18. Ainsi que en ce qui me concerne, Tychique, le frère bien-aimé, fidèle serviteur du Seigneur, mon compagnon dans le service du Seigneur, vous mettra au courant de tout. Je vous l'envoie tout exprès parce que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec le fidèle et bien-aimé frère Onésime, votre compatriote. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Parmi les circoncis, ce sont les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi un réconfort. Épaphras, votre compatriote vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Je lui rends ce témoignage qu'il prend beaucoup de peine pour vous, pour ceux de l'Odyssée et pour ceux de Hierapolis. Luc le médecin bien-aimé vous salue, ainsi que Déma. On s'arrête juste là. Mais qui sont ces gens et pourquoi Paul les mentionne? Dans le livre des Actes, nous apprenons que c'était après le ministère de l'apôtre Paul à Éphèse, durant son troisième voyage missionnaire. Il était pasteur missionnaire, pasteur enseignant pendant 3 ans à l'église à Éphèse. Et ce ministère a porté du fruit. Nous apprenons qu'un homme nommé Épaphras s'est converti à ce moment-là. Il est citoyen de Colosse. Il semble être resté à Éphèse pour y recevoir de l'enseignement de l'apôtre Paul. Et ensuite, il a rejoint sa ville pour l'évangéliser. Plus largement, il a proclamé l'évangile dans les autres villes, dans toute la région, dans les villes de Colosse, dans les villes de Laodicée et aussi à Hierapolis. Et même, il a fondé une église dans chacune de ces cités. Il a continué à servir comme pasteur dans ces églises. Il a apporté un bon enseignement selon ses compétences. Mais nous voyons que l'apôtre Paul a averti l'église à Éphèse. Les loups sont arrivés, comme Paul les a avertis. Les loups sont arrivés et les faux enseignants ont pris la parole. Ils ont commencé à enseigner une hérésie aux membres de cette église. Cette hérésie est un mélange de judaïsme, de légalisme, de mysticisme et des croyances païennes. Et Epaphras, il a discerné que ce n'était pas le même évangile qu'il a entendu, qu'il a été enseigné par l'apôtre Paul. Il désire les combattre, mais malgré ses efforts, les fausses doctrines gagnent du terrain, car les fausses enseignantes étaient plus érudites. Epaphras constate alors que le défi et le danger de cette hérésie sont au-dessus de ses compétences. Donc il a cherché de l'aide. Mais que fait-il? Paul était emprisonné à Rome. Le danger de cette hérésie le préoccupe tant qu'il fait le long voyage de Marseille jusqu'à Genève. Il a fait le long voyage de Colosse jusqu'à Rome. Plus de 1000 kilomètres de voyage. Et à Rome, malgré le fait d'être emprisonné, Paul est là. Paul annonce l'évangile aux soldats comme aux autres prisonniers. Et parmi les convertis de cette prison romaine se trouve un esclave fugitif qui s'appelle Onésime. Et pourquoi Onésime est-il emprisonné? Il faut se revenir un peu en arrière pour voir la souveraineté de Dieu. Parce qu'Onésime s'est échappé Colosse, de la maison de son maître, un citoyen de Colosse du nom de Philémon. Ça me rappelle d'un autre livre écrit par l'apôtre Paul. Philémon aussi était converti à Éphèse sous le ministère de Paul, et maintenant il est membre de l'église à Colosse. On estime en fuite se rend donc jusqu'à Rome, peut-être avec l'espoir de se perdre dans la grande foule qui se trouve. Mais il est interpellé et jeté en prison. La même prison où se trouve par hasard, par la souveraineté de Dieu, l'apôtre Paul, en face à face avec le meilleur évangéliste de cette époque, face à face avec l'évangile de Jésus-Christ. Et nous voyons que Onésime aussi se donne à Jésus-Christ. Et par la suite, il devient un des disciples, aussi membre de l'équipe de l'apôtre Paul. Il se joignait aux autres membres de l'équipe, à Luc, Déma, Jean-Marc, Tichique, Timothée. Maintenant, nous voyons qu'Epaphras arrive à Rome. Il trouve Paul et lui explique la situation au Colosse et dans les autres églises dans la région. Alors, nous voyons que Paul a écrit au moins 4 lettres pendant ce moment, en réponse à ce qui arrive ensuite à cause de la nouvelle qu'Epaphras a donnée. Il a écrit une lettre à l'église majeure, l'église mère à Éphèse. Nous avons la lettre aux Éphésiens. Il a écrit la lettre à l'église à Colosse. Il a aussi écrit une lettre à l'église de Laodicée, qui est mentionnée à la fin de cet épître de Colosse. Mais cette lettre, nous trouvons, était perdue. Il a écrit une quatrième lettre à Philémon concernant Onésime, son esclave. C'est Tichique, l'ambassadeur, l'envoyé de Paul, qui est chargé de la transmission de ces lettres. C'est un homme fidèle, et Paul utilise sa fidélité pour porter ses messages. Ainsi, Tichique part à Colosse avec Onésime pour se réconcilier avec son maître Philémon. Epaphras reste à Rome, peut-être pour recevoir plus d'instructions de l'apôtre Paul. Et comme dans l'histoire de Jean-Marc, nous avons étudié il y a un an, cette histoire ne se trouve pas dans un seul livre, dans un seul lieu de la Bible. Il faut trouver et mettre en place toutes les pièces de ce puzzle. Un autre jour, nous regarderons l'histoire d'Onésime qui se trouve dans cette lettre écrite à Philémon. Mais aujourd'hui, nous voulons centrer l'étude sur l'histoire de trois hommes clés qui sont mentionnés dans cette lettre. À Epaphras, le pasteur de Colosse, qui je l'appelle le pasteur parfait, le pasteur parfait. Et aussi à Tychique, celui qui a amené ces lettres, le messager fidèle. Et aussi à Déma, le compagnon apostat. Apostat, ça veut dire quelqu'un qui a abandonné la vérité qu'il avait avant. Regardons, jetez un coup d'œil à Epaphras. Epaphras, son nom vient de le diminutif d'Epaphrodite, ce nom vient de la déesse Aphrodite. Littéralement, son nom veut dire sur-Aphrodite. Et ce mot veut dire charmant, beau. Et dans un sens, son nom est semblable à notre Jean-Marie. On nomme souvent nos jeunes, les garçons, après un saint ou après Marie. Ses parents lui ont donné le nom d'une déesse grecque. Donc, par cela, nous connaissons que ses origines ne sont pas juives, ils sont grecs. C'est un nom assez commun, puisqu'il y avait un autre homme nommé Epaphrodite dans l'église à Philippe. Il n'y a que trois passages dans lesquels Epaphras est mentionné. Au commencement et à la fin de cette épître aux Colossiens, et aussi dans la lettre adressée à Philémon, membre de cette église. Regardons Colossiens chapitre 1, verset 6. Et Paul écrit cette lettre à cette église et il parle d'Epaphras. Il a dit en verset 6, chapitre 1, « Cet évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. Il en est de même chez vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues de Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service. » Il est pour vous un fidèle ministre du Christ et nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. Et à la fin, au chapitre 4, nous avons lu qu'encore Paul appelle un compatriote de l'Église. Il était un autochtone de la ville de Colosse. Paul appelle un serviteur de Jésus-Christ, celui qui combat dans la prière. Il a dit... Il prend beaucoup de peine dans la prière pour les églises qu'il a fondées. Et encore en Philémon, la seule autre mention de cette disciple de Paul, en Philémon verset 23, nous lisons « Epaphras, mon compagnon de captivité, en Christ Jésus te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Déma, Luc et mes compagnons d'œuvre. » Epaphras, le pasteur parfait. Pourquoi, comment on peut dire qu'un pasteur est parfait? Il n'était pas parfait dans le sens qu'il ne manquait rien, qu'il était complet, mais il est parfait parce qu'il a fait précisément ce qu'il fallait faire. Il était un pasteur fidèle. Et donc, avec le peu que nous connaissons d'Epaphras, voici ce que nous pouvons trouver. D'abord, il a écouté l'évangile prêché par Paul à Éphèse et il a cru. C'était la première étape dans sa vie d'un pasteur. Deuxièmement, il a porté ensuite ce message aux autres petites villes que Paul n'a pas visitées. Paul n'a jamais visité la ville de Colosse. Il n'a jamais visité Laodicée. Et aussi, il a planté une église à Hierapolis, les petits villages à peu près 100 kilomètres d'Éphèse. Et nous voyons là, il a enseigné les croyants de ces églises avec toute la connaissance qu'il avait, tout ce qu'il avait appris de Paul. Et nous voyons aussi, il était un fidèle disciple de Paul. Il a suivi l'exemple de Paul. Le suivre l'exemple de Paul dans l'enseignement, parce que nous voyons quel était le ministère de Paul. Paul a dit, c'est Christ que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. Et Epaphras a suivi ce même exemple. Il a fidèlement communiqué l'évangile. Et aussi, Epaphras a suivi l'exemple de Paul dans la prière, parce que Paul a dit qu'il a prié pour les églises. En chapitre 2 de Colossiens, verset 1, Paul a dit, « Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. » Paul a dit qu'il prie pour ses églises et Epaphras a pris cet exemple de Paul. Il a combattu dans la prière. Nous voyons aussi que Epaphras était vigilant. Il savait que l'hérésie qui arrivait à Colosse n'était pas selon l'évangile qu'il avait reçu. Il a discerné le danger évident au milieu de cette église. Et aussi, il était parfait parce qu'il connaissait ses limites. Il connaissait ses propres compétences. Face aux situations qui n'étaient pas dans son domaine de compétences, il a tout fait pour chercher de l'aide jusqu'à se rendre à Rome pour être conseillé par Paul, par un apôtre. Donc, nous voyons, il a fait tout ce qu'il a fallu faire. Tout ce qu'un pasteur peut faire pour son troupeau. Et aussi, si nous plongeons plus profondément, nous voyons, Epaphras n'a pas simplement prié, mais il a confié la situation entre les mains de Dieu. Il a combattu dans la prière pour son église. Nous voyons qu'il a prêché, il a enseigné fidèlement la parole de Dieu. Il n'a pas tenté de lier Satan, ni par ses prières, ni par ce qu'on appelle souvent le combat spirituel. Souvent, on voit dans des églises qui disent, « Ah, Seigneur, il faut lier Satan parce qu'il menace cette église. » Epaphras n'a pas essayé de lier Satan. Il était humble. Il connaissait et acceptait ses propres limites. Il a cherché de l'aide, le conseil d'un apôtre. Et nous voyons, il a continué à combattre dans la prière. Même à Rome, il continuait à combattre dans la prière pour cette église. Qu'est-ce que nous trouvons dans cet exemple d'Epaphras? D'abord, ce n'est pas simplement par la prière que chaque bataille est gagnée. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas simplement par la prière que chaque bataille est gagnée. Deux éléments sont nécessaires. La prière et la parole. La parole. Paul n'a pas simplement prié pour ses églises, mais il a envoyé la parole de Dieu. Il a écrit une lettre inspirée par le Saint-Esprit à cette église pour combattre cette hérésie. Les deux éléments sont nécessaires, la vérité de la parole de Dieu et la prière. Nous voyons aussi encore le rôle des apôtres dans l'Église du Nouveau Testament. C'était les apôtres qui sont les envoyés par lesquels Dieu a transmis son message aux Églises. Vous connaissez déjà bien ce verset. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'était par un apôtre que Dieu a envoyé son conseil divin et souveraine à cette église. Deux éléments nécessaires. Et Epaphras connaissait ces deux éléments, comme l'apôtre Paul. Un pasteur parfait. La deuxième personne que l'on voudrait regarder ce matin, c'est Tichik. Et je ne sais pas si vous avez, je doute que vous avez jamais entendu un message qui parle de Tichik. C'est souvent à la fin de ses lettres que Paul mentionne ses compagnons et on ne peut pas même mentionner, on ne peut pas se souvenir de leur nom. Tichik, l'envoyé de Paul. En Proverbe 25, nous lisons « Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour ceux qui l'envoient. Il restaure l'âme de son Seigneur. » Tichik était ce messager fidèle et il a été l'ambassadeur pour l'apôtre Paul à plusieurs occasions. Son nom signifie « fortuit » ou « heureux ». C'est un compagnon sur lequel Paul pouvait compter, un responsable compétent, puisqu'à plusieurs reprises, il était pressenti pour remplacer Tite et Timothée. Timothée, le disciple le plus proche. Et nous le trouvons mentionné 5 fois dans le Nouveau Testament. Il avait d'abord accompagné Paul à Jérusalem en tant que représentant des églises à majorité païenne. Nous le trouvons en Actes chapitre 20, versets 1 à 4. Nous lisons « Lorsque le tumulte eut cessé, Paul fit venir les disciples et après les avoir exhortés, pris congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. » Il traversa ce territoire en adressant de nombreuses exhortations, puis se rendit en Grèce. Il y fit un séjour de 3 mois. Il était sur le point de faire voile vers la Syrie, mais à la suite d'un complot des Juifs contre lui, il prit la décision de retourner par la Macédoine. Il avait pour accompagner Sopater, fils de Pyrrhus de Bérée, Aristarque et Secundus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tichik et Trophime, originaires d'Asie. Donc, comme Tichik était le responsable de l'acheminement des lettres de Paul, c'est donc lui qui va les transmettre aux Colossiens, aux Éphésiens, à Philémon, à l'occasion de son voyage dans lequel il raccompagne Onésime, l'esclave de Philémon, qui était aussi membre de l'église à Colosse. Nous voyons aussi mentionné en Éphésiens chapitre 6, verset 21, en mettant toutes ces pièces du puzzle ensemble, il dit « Pour que vous sachiez vous aussi ce qui me concerne et ce que je fais, Tichik, le frère bien-aimé, fidèle serviteur du Seigneur, vous mettra au courant de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et qu'il console vos cœurs. » Nous avons lu en Colossiens chapitre 4, Tichik, le frère bien-aimé, fidèle serviteur, mon compagnon dans le service. Encore, nous voyons en 2 Timothée, juste une petite phrase. Il a dit, « J'ai envoyé Tichik à Éphèse. » Aussi mentionné en Tite, chapitre 3, verset 12, il a dit, « Lorsque je t'enverrai Artema ou Tichik, empresse-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. » Donc nous voyons, chaque fois qu'on parle à quelque chose à envoyer, quelqu'un pour aider, exhorter, enseigner une église, Tichik. Timothée était un pasteur, il était à Éphèse pendant longtemps, mais Tichik était l'envoyé, l'ambassadeur de Paul. Nous voyons d'abord qu'il était fidèle. Paul appelle un fidèle serviteur de Jésus-Christ. Et la Bible nous appelle que Paul s'appelle même un serviteur de Christ. Paul s'appelle un administrateur des mystères de Dieu. Il a dit qu'un administrateur doit être trouvé fidèle. Et Tichik, Paul a trouvé un homme fidèle. Aussi, il était disponible. Tichic était un homme qui a mis à côté ses propres affaires pour poursuivre et servir l'apôtre Paul. C'était probablement un jeune homme célibataire. Cette situation lui a donné une liberté plus grande pour être au service de Paul, pour l'évangélisation de cette partie du bassin méditerranéen. Pendant au moins plusieurs années. Donc, si vous êtes ici comme célibataire, regardez l'exemple de ces gens. Oui, je te vois. Billy le fridge. Billy le frigo, il est carré, solide comme un frigo, n'est-ce pas? Donc, Tichic était disponible. Il n'avait pas une femme, une famille. Paul pour l'envoyer partout. Il était libre de voyager. Nous voyons aussi qu'il était courageux et loyal. Il a traversé une grande partie de l'Empire romain avec Paul, même au moment dangereux à cause des complots des Juifs. Il s'est toujours tenu à ses côtés. Il accompagnait Paul et les autres membres de l'équipe à Jérusalem. Et il semble même qu'il était présent lors du voyage à Rome, ce voyage périlleux. Il est resté à côté de Paul lorsque ce dernier était emprisonné aussi. Il n'avait pas honte d'être compagnon de Paul. Et quatrième, il était capable. Paul savait que Tichic avait toutes les capacités nécessaires pour apporter cette lettre, s'assurer qu'elle soit lue et mise en pratique. Tichic avait aussi les capacités de l'expliquer et enseigner, de leur donner la consolation nécessaire à ces églises menacées. Si, face à cette hérésie, comment on va envoyer quelqu'un qui n'est pas un homme avec un comportement digne de Christ, quelqu'un bien enseigné, bien fondé dans les Écritures? Il était capable. Nous voyons, il était un bel exemple d'un vrai disciple de Paul et aussi de Jésus-Christ. Ces deux garçons, deux jeunes hommes, la direction de leur vie était vers Jésus-Christ. Et nous voyons par ces exemples. Et la troisième personne, Déma. C'est le diminutif de Demetrius, d'après le nom de la déesse grecque Déméter. Son nom rappelle donc ses origines grecques, païennes. C'était un des plus proches associés de Paul. Nous le trouvons pour la première fois ici en Colossiens, à la fin de cette lettre. Paul a dit, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Déma. Paul a mis ensemble avec Luc, un de ses compagnons le plus proche, le plus fidèle. Il est paru aussi dans la lettre écrite en même temps à Philémon, où il appelle son compagnon de captivité, les compagnons d'œuvre. Un compagnon d'œuvre, quelqu'un qui a laboré à côté de toi, à côté de Paul. Paul le nomme comme un de ses collaborateurs, un compagnon d'œuvre. Ils étaient dans la même prison romaine. Mais au fil du temps, leur relation s'est dégradée. Lorsque Paul écrit sa deuxième lettre à Timothée, vers la fin de sa vie, la rupture est consommée. En 2 Timothée, chapitre 4, verset 9, nous lisons, « Tâche de venir au plus tôt vers moi. » C'était l'appel à Timothée. Verset 10, « Car Déma m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. » Ainsi, on apprend que Déma a démontré un engagement sans faille pour l'œuvre du Seigneur jusqu'à l'attrait du monde le conduise à abandonner Paul et le ministère. Les Écritures ne nous parlent pas de son ministère ni de ses origines. Elles ne donnent pas non plus les circonstances qui l'ont poussé à abandonner Paul et son équipe. Enfin, nous ne connaissons pas la durée de son service, mais on pensait qu'au moins il était à côté de Paul pendant plusieurs années. Mais on peut donc affirmer qu'après une période de fidèle service, il a tout abandonné. Dans un sens, il semble que Démas était un vrai disciple de l'apôtre Paul. Un fidèle disciple de l'apôtre Paul, mais ce parole, ce mot de quatre lettres est un des plus puissants dans la Bible, n'est-ce pas? Mais Démas n'était pas un disciple de Jésus-Christ. Il a mis tout son espoir, tout son loyauté à Paul. Et il ne savait pas que Paul n'était qu'un disciple de Jésus-Christ. Comme Paul a dit, « Suis-moi comme je suis Jésus-Christ. » Nous lisons que Paul a dit, « Démas m'a abandonné. » Et le verbe grec ici implique que la victime de cet abandon se trouve dans une situation dramatique. Paul était dans la nécessité. Il avait besoin d'être à côté de lui. Et Démas se révèle être un ami des beaux jours. Il n'a pas évalué avant de se lancer ce qu'il en coûte de s'engager authentiquement pour Christ. C'est comme cet homme mentionné dans le parabole du semeur qui a reçu la semence avec joie, mais les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Nous ne connaissons pas les circonstances de la séparation, mais la raison donnée par l'apôtre Paul est par amour de ce siècle présent, un amour pour ce monde-ci. Peut-être l'apôtre Jean était au courant de cette situation. En 1 Jean chapitre 2, nous lisons, Jean a dit, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. La soif de succès et de gloire a rendu Démas, l'a tiré Démas jusqu'à l'abandon. Des choses qu'il n'a pas trouvées avec l'apôtre Paul. Il est parti à Thessalonique et Thessalonique était la ville qui était le plus violent contre l'évangile en Macédoine. C'était la ville où les Juifs l'ont chassé Paul. Je ne sais pas exactement toutes les dates de l'emprisonnement de Paul. On croit que Paul était emprisonné plusieurs fois. Mais il y a un verset dans la lettre aux Philippiens qui semble bien toucher cette situation. Soit que Paul parle à cette occasion avec Démas, ou soit quelque chose de semblable, mais en Philippiens chapitre 3, versets 17 à 19. Paul dit, « Soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il me semble correct de croire que cette première phrase parle de ceux comme Épaphras et Tychique. Ceux qui marchaient selon le modèle donné par Paul, c'est ces gens-là qu'il faut imiter. Mais Paul écrit les phrases suivantes en larmes. Qui sont ceux qui marchent en ennemis de la croix? Ce sont les gens comme Démas, qui ont montré un élément de fidélité, mais à la fin, par l'abandon. Jean a dit, l'apôtre Jean, dans son premier épître, il a dit, voici maintenant plusieurs antichrists. Et il a dit, ils sont sortis de chez nous, de l'Église, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Jean nous informe que ceux qui quittent l'Église, on peut dire définitivement, ne sont pas déchus de la grâce, n'ont pas perdu leur salut, mais c'est une évidence qu'ils n'étaient jamais sauvés. Donc voici quelques grandes leçons à prendre de cette histoire de Démas. D'abord, gardez-vous de la séduction de ce monde. C'est attirant, n'est-ce pas? Il y a ceux qui sont attirés par les motos Harley-Davidson, n'est-ce pas? Les autres, le plus sage, par les BMW. Les autres, par les montres suisses. Les autres, par... Vous connaissez par ce que vous êtes, les choses qui vous attirent, n'est-ce pas? Deuxièmement, prenez comme modèle ceux qui servent Jésus-Christ avec fidélité, qu'ils soient vos héros, ceux qui parlent par un temps de fidélité, pendant des années de fidélité, ils deviennent nos exemples de la foi. Aussi, ne soyez pas un disciple d'un homme seulement. Oui, j'aime Jean Glass, il est un modèle pour moi, et j'espère que vous, et comme Fabienne, mais Jean Glass n'est qu'un modèle. Derrière lui, je le vois comme modèle en tant qu'il suit Jésus-Christ. Ne sois pas simplement un disciple d'un homme, soit John MacArthur, soit Jean Glass, soit un autre. Mais sois un disciple dévoué à Jésus-Christ. Et dernièrement, faites attention aux imposteurs. Enfin, notre seul héros sans faute est Jésus-Christ. Donc voici donc l'histoire de ces trois hommes, ces trois associés de l'apôtre Paul. Tous étaient sous son influence. Tous ont suivi l'enseignement, le même enseignement du meilleur évangéliste de leur époque. Deux ont pris cet évangile au cœur. Ils ont continué fidèlement à servir. Le troisième, qui a reçu le même enseignement, est passé par les mêmes expériences, a finalement tout rejeté. Démas a vu la détresse de Paul, mais lui a tourné le dos, l'a abandonné. L'homme le plus sage du monde a dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Démas pensait que cette route, la voie à Thessalonique, le conduirait au bonheur, mais en fait, c'était la route de la mort. Chacune de nous suit les traces d'un de ces trois hommes. Nous se dirigeons vers Jésus-Christ ou vers la trahison. Je ne sais pas si vous êtes ici et la vraie direction de votre vie est vers Jésus-Christ ou si vous marchez en arrière, toujours face au monde, mais vous essayez d'être un imposteur. Ce matin, la Bible vous appelle à vous examiner et contempler cette question. Quelle est la direction de ma vie? Est-ce que je suis face à Jésus-Christ ou est-ce qu'en vérité, ma face est comme la femme de Lot, toujours vers le passé, toujours vers ce monde? Trois hommes, bien disciples de Paul et deux qui étaient vraiment disciples de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse l'enseignement de sa parole. Amen.